quartus, eternos ancora, ancorentium, nil continuum, nilter sevi, detude, nous sommes encore dans la première division du livre, qui nous dit de rejeter les convoitises charnelles. Le livre commence assez négativement et devient de plus en plus positif à mesure qu'il progresse. Et nous avons parlé de les deux premières convoitises charnelles, qui sont la polarisation et le prestige. Maintenant, nous allons parler de la troisième, qui est la débauche, et c'est assez évident lors de quel chapitre nous allons parler. Et c'est un conseil particulièrement donné à l'Assemblée pour comment éviter la débauche dans l'Assemblée. Le sujet précisément discuté sur la fornication, mais l'enseignement de ce chapitre s'appliquerait aussi à tout désordre moral, comme un prétendu chrétien qui tombe dans le crime, ou l'enseignement de doctrine hérétique, ou tout simplement la persévérance dans une mauvaise voie quelconque et une vraie rébellion. Lisons alors le chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme un frère, est impudique, cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, c'est alors un conseil adressé à l'Assemblée sur comment éviter d'avoir des péchés grossiers dans son milieu et aussi quoi faire quand un tel péché paraît dans son milieu. Et le premier conseil qui est donné, c'est une humilité convenable, parce que c'est justement si nous nous enorgueillons que nous courons le grand danger d'avoir des péchés grossiers dans notre milieu. Et nous devons reconnaître surtout l'extrême honte que ce serait pour nous si quelqu'un qui se nomme frère, quelqu'un qui prétendait être de nous, faisait quelque chose de pire que la plupart du monde inconverti, comme ce qui était le cas pour les Corinthiens. Il y avait parmi eux quelqu'un qui pratiquait une espèce d'immoralité qui ne serait même pas nommée parmi les païens. Les païens l'avaient en horreur. Et quelle honte que c'est si un prétendu chrétien fait quelque chose de pire que ce que la société inconvertie oserait faire. Mais voilà à quel point l'orgueil peut endurcir le cœur si nous ne veillons pas. Et les Corinthiens détournaient leur attention de ce cas d'impudicité parmi eux et se vantaient des privilèges spirituels qu'ils pensaient avoir et que Paul
amongst the layers of Peter Cat, verse 3, he's on deja vu at rest, deja vu at race, spiritual amongst the deer, son nu, vous avez commencé à régner, or les corinthiens se concentrer sur les privilèges spirituels qu'ils pensaient avoir. Mais ça me fait penser à bien des chrétiens que j'ai connus, qui, quand on parle de quelque chose qui nous alarme dans l'assemblée, disent toujours, oh mais il faut être positif, il faut regarder le bon côté. Parlons pas trop de ce qui ne va pas. Il y aura toujours quelque chose de mauvais on peut trouver, mais concentrons-nous sur ce qui va bien pour nous encourager. Avez-vous entendu un tel langage? Eh bien, c'est justement comme ça qu'on s'aveugle volontairement au péché et on s'enorgueille pensant combien ça va bien, puis tout d'un coup, on découvre qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui fait pire que les païens. Combien il nous importe d'oser être négatif quand il le faut, et d'appeler le péché par son nom et reconnaître la gravité, et combien il nous importe de connaître cette humilité convenable qui nous permet de reconnaître des signaux de danger. Un autre conseil qui a donné cette fermeté suffisante. Paul n'était pas parmi les Corinthiens quand ce cas d'impudicité a paru parmi eux. Mais il dit, c'est évident comment il faut agir. Même si je ne suis pas là, c'est évident pour moi. Et combien de fois quand on parle aux chrétiens de quelque chose qui nous alarme, on entend une réponse disant, « Oh, mais vous ne connaissez pas toutes les circonstances, alors il ne faut pas juger. » Ou « C'est pas quelqu'un en dehors de notre milieu de nous dire ce que nous pouvons faire. » Et même nous qui sommes de ce milieu, nous ne voyons pas dans le cœur de la personne qui a commis cette offense. Seulement Dieu voit dans le cœur, alors qui sommes-nous pour juger? Et ils essaient de donner l'impression que c'est bien compliqué de savoir comment agir à l'égard du péché dans leur milieu. Et tant qu'on complique la façon d'agir inutilement, on ne va jamais agir et le péché va aller en augmentant parmi nous. Donc, Paul dit, c'est très simple, quand il y a un tel péché au milieu de vous, même sans que je sois là, je sais qu'est-ce que vous avez à faire. Vous devez livrer cet homme à Satan. Alors voilà une grande question. Même récemment, un certain frère a sorti cette question, avait demandé qu'est-ce que ça signifie. J'ai dit, j'en parlerai tantôt. Et puis, au regret, ce frère n'a pas ici ce soir pour l'entendre. De cas, nous avons souvent des plaintes de manquer d'enseignement de la part de ceux qui ne viennent pas. Mais en tout cas, pour vous qui êtes ici, je vais vous dire qu'est-ce que je crois. J'ai appris cette explication de la part de certains chrétiens qui l'avaient mis en pratique littéralement et je crois vraiment qu'ils ont raison. Vous connaissez l'histoire de Job où Dieu avait donné à Satan la permission d'imposer certaines souffrances sur Job, mais avec des limites. En premier, Dieu avait dit, tu peux lui enlever tout, mais touche pas à son corps. Ensuite, Dieu avait dit, bien, tu peux tout faire même à son corps, mais laisse-lui la vie. Et à ces deux occasions, Dieu livrait Job à Satan, sauf que dans le cas de Job, ce n'était pas pour un châtiment. Pour plutôt prouver à Satan que Job aimait Dieu toujours. Mais une assemblée, comme une unité, a l'autorisation aussi de Dieu de livrer quelqu'un à Satan comme un châtiment. Un individu, un chrétien individuel, n'a pas cette autorisation. C'est vrai que Paul a dit dans 1 Timothée qu'il avait livré deux hommes à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Sans doute, Paul pouvait le faire parce qu'il était apôtre. Mais n'importe quel chrétien, comme individu, n'a pas ce pouvoir, mais une assemblée comme une unité a le pouvoir de livrer à Satan quelqu'un de l'assemblée, alors qu'il se dit un chrétien, mais qui commet un péché d'une certaine magnitude, qu'on peut appeler un péché grossier. Et quel genre de péché pouvons-nous appeler péché grossier? Je pense que nous avons une suggestion de la réponse dans la manière dont Nathan a parlé à David après qu'il avait commis son grand péché avec Bathsheba. Et Nathan avait dit, puisque tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, qui pour se traduire, tu as donné aux ennemis de l'Éternel toute une occasion de blasphémer. C'est pour cela que l'enfant qui vient au monde à cause de cette relation illicite va mourir. Et parce que n'importe quel péché va certainement ternir la vie de l'Assemblée, la vie spirituelle, mais quand même pour la plupart des péchés parmi nous, ce sera poussé pas mal fort de dire que la personne a donné toute une occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer. S'il y a, par exemple, une mésentente entre deux frères dans l'Assemblée, c'est certain, c'est regrettable, ça va couper leur communion avec Dieu jusqu'à ce qu'ils soient réconciliés, mais probablement le monde du dehors ne le saura même pas. Mais s'il y a un péché comme l'impudicité ou l'ivrognerie ou un crime dans l'Assemblée, c'est bien probable que le monde du dehors va le savoir et ça va donner toute une occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer. Et pour un péché d'une telle magnitude, alors l'Assemblée comme une unité et sous la direction des anciens peut donner à Satan la permission de faire tout ce qu'il veut avec l'offenseur, sauf que si l'offenseur est vraiment sauvé, Satan peut probablement enlever son salut. Mais Satan a la permission de le faire tomber gravement malade, ou de lui faire perdre un membre, avoir un grave accident, et même de le tuer. Et l'Assemblée peut le laisser livrer à Satan jusqu'à ce qu'il se repente. Et le but de cela, c'est d'abord pour sauver le témoignage de l'Assemblée en montrant au monde extérieur qu'on n'approuve pas ce que la personne a fait, et deuxièmement pour l'amener à la repentance. Les chrétiens qui m'ont donné cette explication, ils ont dit que leur Assemblée avait utilisé ce pouvoir quatre fois depuis son existence comme Assemblée, et que d'entre les quatre personnes qu'ils avaient livrées à Satan, trois sont mortes en dedans d'un an, montrant qu'alors que c'est quelque chose de sérieux, ce n'est pas traité avec légèreté, mais c'était utilisé pour des péchés qui ne doivent pas être traités avec légèreté. Je crois que dans un de ces quatre cas où ces chrétiens avaient livré quelqu'un à Satan, c'était un cas d'adultère. Dans un autre cas, c'était une fausse doctrine, quelqu'un qui enseignait que Dieu lui parlait par des rêves qui avaient plus d'autorité que la Bible, et il a persisté dans cet enseignement après un avertissement. Alors, ce sont des exemples. Et Paul donne même des exemples, verset 11. Quelqu'un qui se nomme en frère est impudique ou cupide, c'est-à-dire tout ce qui le préoccupe, c'est de l'argent et des possessions, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. On peut livrer à Satan pour une telle offense. Nous devons donc avoir cette fermeté suffisante et combien c'est attristant de voir que les chrétiens de nos jours en général manquent de fermeté. Comme j'ai déjà fait référence à une assemblée que je connais où il y a un homme en communion avec l'assemblée qui a comme travail de faire des films pornographiques et il le fait depuis bien des années. Les anciens le savent, mais sans penser que c'est pas leur place d'intervenir. Ça, c'est un portrait de l'Église chrétienne de nos jours, et vraiment c'est troublant que le Seigneur réveille son peuple avant que notre témoignage soit entièrement détruit. Puis, pour empêcher la débauche des péchés semblables dans l'Assemblée, il faut une vigilance constante, d'après les versets 6 à 9, un avertissement de ne pas laisser le levain s'infiltrer dans l'Assemblée, et le levain s'infiltre graduellement. J'ai une opinion un peu différente de la plupart des théologiens sur la signification du levain. Généralement, on dit le levain signifie le péché. Moi, je crois que le levain signifie pas tout à fait le péché, mais la capacité de se sentir à l'aise dans une atmosphère mondaine ou parmi le péché. Parce que pourquoi est-ce que les Israélites ont mangé du pain sans levain avant de sortir de l'Égypte le soir de la Pâque? Så parce que il n'a pas le temps de faire du pain levé, il devait préparer sur n'importe quel instant. Je leur dis dans Deutéronome, vous avez mangé du pain sans levain, car c'est avec précipitation que vous êtes sorti de l'Égypte. Et si un Israélite avait pris le temps de faire du pain levé, ça aurait montré qu'il était à l'aise en Égypte, qui est un symbole du monde. Et le levain, donc, c'est un symbole de la capacité d'être à l'aise dans une atmosphère mondaine. Et si nous laissons cette capacité de nous sentir à l'aise avec la présence du péché venir dans notre cœur et dans notre milieu, ça va nous entraîner au péché. Tandis que si nous nous attachons à Christ qui est notre Pâque, nous allons développer plutôt le caractère de Dieu qui est décrit dans Habakkuk 1:13, tu as les yeux trop purs pour regarder le péché. Est-ce que le péché nous trouve vraiment au point d'être insupportable? Ça qu'il faut pour empêcher que le péché s'infiltre petit à petit parmi nous et la corruption de l'Église de Corinthe n'avait pas commencé avec ce cas d'impudicité, ça avait commencé avec d'autres choses de moins évidentes. Et à force de ne pas juger le péché, ils étaient rendus là maintenant au point où quelqu'un d'entre eux faisait pire que le monde. Et la mauvaise compagnie aussi parmi nous est une manière de nous corrompre graduellement. Et encore un conseil pour éviter que la débauche s'infiltre dans l'assemblée, il faut une humilité convenable, il faut une fermeté suffisante, il faut une vigilance constante et il faut une distinction nécessaire. Parce que les versets 10 à 13 nous parlent de la distinction du dedans et du dehors de l'assemblée. C'est certain que nous ne pouvons pas éviter tout contact avec la corruption dans le monde. Autrement, il faut sortir du monde. Après tout, on n'est pas appelé à un monastère. Mais quelle folie de prendre ça comme raison de dire qu'est-ce que ça donne alors de mettre le péché hors de l'assemblée? Parce que c'est normal qu'il y ait du péché au dehors, mais laissons-le pas entrer au dedans. Et pourtant, combien de fois les chrétiens se sont trompés là-dessus? Au du temps de l'Église primitive, il y avait tant de persécution qu'il n'y avait pas grand danger d'avoir des hypocrites dans l'Église. Puis quand l'empereur Constantin a donné tout d'un coup la permission à tous d'avoir la liberté religieuse, et tout d'un coup c'est devenu populaire d'être chrétien, le problème s'est produit. Et du temps d'Augustin, l'Église a eu une conférence pour décider quoi faire avec ceux qui se disent chrétiens mais qui ne montrent aucun fruit dans leur vie. Est-ce qu'on doit les mettre dehors ou est-ce qu'on doit les garder? Et Augustin avait interprété la parabole du blé et de l'ivraie pour signifier qu'il faut les laisser dans l'Église, non pas qu'on approuve de leur vie, mais simplement parce que c'est pas encore le temps de les juger, ça va arriver au jugement. Et c'est à cause de cela que jusqu'aujourd'hui, l'Église catholique romaine est encore une Église de multitude. Où est-ce que Augustin s'est trompé? Tout simplement que l'explication de cette parabole du blé et du livret dit « le champ c'est le monde » et Augustin l'a interprété comme si le champ était l'Église. Et combien de fois aussi les chrétiens ou les prétendus chrétiens disent « qu'est-ce que ça donne de purifier l'Assemblée quand le monde accepte le péché de nos jours? Ça ne scandalise plus le monde. » Eh bien, le monde sait quand même quelle est notre position. Je me rappelle, par exemple, quand dans une assemblée dont j'ai déjà fait partie, on voulait que les frères donnent un coup de main au soir avec la garderie. Et alors, des hommes voulaient que chaque frère ait un tour avec chaque soeur pour garder les enfants. Et j'ai protesté, j'ai dit... qu'est-ce que le monde va penser si un homme et une femme qui n'est pas sa femme sont tout seuls dans une pièce avec les enfants pour un temps? Qu'est-ce que le monde va penser de ça et quel est le danger de la tentation? Et savez-vous qu'est-ce que quelques-uns des prétendus frères m'ont répondu? Ils ont dit, oh, mais le monde accepte tellement le concubinage aujourd'hui quand même que ça les scandaliserait pas. Eh bien, c'est jusque-là que la mentalité est capable d'aller parmi ceux qui ne font pas la distinction entre le dedans et le dehors. Et le dehors n'est pas uniquement le monde inconverti, puisque l'offenseur pouvait être mis dehors après avoir au moins fait une confession de foi. Donc le dehors, c'est tous ceux qui n'ont pas été reçus dans l'assemblée et c'est ceux qui ont été mis dehors par discipline. Et j'ai l'impression que nous avons peu de notions de combien être mis hors de l'Assemblée, combien être exclu de l'Assemblée était une chose redoutable du temps du Nouveau Testament. Les premiers chrétiens n'osaient pas vivre sans Assemblée. C'était une horreur pour eux d'être exclus parce qu'ils sentaient le besoin de l'Assemblée pour protéger leurs âmes. Aujourd'hui, dès que quelqu'un n'aime pas quelque chose qu'il entend dans une prédication, il s'en va puis il trouve un autre milieu où s'associer. Ou s'il n'aime pas une certaine réunion, bien, il ne vient plus. Et si on le met dehors, il trouve même ça pas grave, il dit bien, je vais être un chrétien chez moi. Eh bien, les chrétiens solitaires, on n'en trouve simplement pas dans le Nouveau Testament. On n'ose pas en être, on sent le besoin de la protection de l'Assemblée pour garder son âme. Et combien les chrétiens de nos jours ont besoin d'un réveil pour nous rendre conscient qu'un chrétien sans Assemblée est en grave danger. Bien sûr, il y a des chrétiens isolés qui, sans aucun faute de leur part, sont exclus d'aller à une Assemblée. Alors, Dieu connaît leur situation, mais je parle de ceux qui pourraient fréquenter une assemblée scripturaire, mais qui sont indifférents à l'égard de l'assemblée ou au moins à la vie de l'assemblée. Si seulement leur conscience pouvait aiguiser au danger, au péril dans lequel ils mettent leurs âmes, dans l'église primitive, on n'en trouvait pas. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter que le péché grossier s'infiltre parmi nous? Eh bien, le conseil donné à l'Assemblée, c'est de tenir à la discipline comme les conseils qui ont été donnés. Dans les lettres aux sept églises de l'Asie dans l'Apocalypse, seulement deux églises d'entre les sept allaient bien. Mais Dieu avertit les autres, « Si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier du milieu de vous. » Et si nous ne tenons pas à la discipline, la lumière de notre témoignage ne brillera plus. Et nous ne serons plus comme une lumière, comme dans une ville sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Et il y a un conseil à l'individu aussi de rechercher la sanctification personnelle. C'est certain que l'individu ne peut pas éviter le contact avec le péché. Ceux qui travaillent parmi le monde, ils côtoient des blasphèmes et l'indécence tous les jours. Mais la question c'est, sommes-nous à l'aise avec? C'est une chose d'être parmi le péché, de le côtoyer, et c'est toute une autre chose de nous sentir à l'aise avec le péché, au point même où nous oserions aller sans que ce soit nécessaire, où l'iniquité se commet. Oui, certainement, nous sommes dans un monde mauvais, mais sommes-nous à l'aise en présence du péché ou en présence de la mondanité? C'est là ce qui va montrer si nous avons du levain dans nos cœurs ou non. Pour éviter que la débauche et que des péchés grossiers s'infiltrent dans notre assemblée, il nous faut une humilité convenable, reconnaissant qu'il n'y a aucune assemblée qui soit exemptée de ce danger. Il faut une fermeté suffisante pour juger le péché dès que le moindre trace paraisse parmi nous. Il faut une vigilance constante pour ne pas laisser le levain s'infiltrer graduellement. Et il faut une distinction nécessaire entre le dedans et le dehors. Dieu s'occupe du monde du dehors. Nous ne pouvons pas le changer. mais occupons-nous de ce qui est dedans. Seigneur éternel, il y a des paroles dures dans ta parole pour notre bien. Nous voulons accepter ces avertissements et prendre aussi nos responsabilités de veiller les uns sur les autres. Que tu nous rendes conscients de notre danger, de notre besoin de la protection d'une assemblée et notre besoin en tant qu'individu de nous attacher fermement à Christ qui nous garde. Rends-nous conscients, alors, de notre faiblesse, de notre dépendance de toi et de notre responsabilité, de notre témoignage collectif, car nous le prions au nom de notre bien-aimé Seigneur qui a les yeux comme une flamme de feu. Amen. Chantons un couplet seulement du cantique numéro 185. 185. Le premier couplet, que ce soit notre prière. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Et c'est une grâce même quand il fait sortir au milieu de nous ce que lui voit afin que ça puisse être jugé. 185.